Au revoir la France. Bye bye love. Pays finito. The end. This is the end. Nous sommes au 15e siècle, après 1420 et le traité de Troyes. Affamés, épuisés, livrés au pillage, rançonnés par les bandes armées, ravagés depuis plus d'un demi-siècle par les guerres et les épidémies, la France est sur le point de crever. Que les mots qui l'assaillent viennent des conquérants anglais ou des seigneurs français qui se tirent la bourre pour récupérer les dernières miettes du gâteau. Du reste, c'est à la suite de la guerre civile, née de l'incurie maladive de la classe dirigeante, se subdivisant alors en deux factions rivales bien vénères, les Armagnacs et les Bourguignons, que presque toute la France est désormais aux mains de sa sœur Albion. Seules quelques places et régions isolées du Nord résistent encore à l'annexion anglaise, le Mont-Saint-Michel, la ville de Tournai, la cité de Vaucouleurs. On se croirait revenu à Rome et aux Gaulois. L'Empire n'a jamais pris fin, mais ce coup-ci, César est un bébé. Henri VI, le nouveau roi de France et d'Angleterre, n'est encore qu'un nourrisson. C'est son oncle, le duc de Bedford, qui assure la régence et contrôle alors les territoires que les Bourguignons lui ont servis sur un plateau. Bye bye France, pays finito.
Finito ?
Ou pas loin. Tout le monde ou presque s'attend à une annexion pleine et entière sous peu. Surtout à partir du moment où la ville d'Orléans est à son tour assiégée en octobre 1428. Avant de mourir, le roi Charles VI, lui-même ravagé, et sa femme Isabelle de Bavière ont abjuré le soi-disant dauphin, propre fils, Charles VII, qui se considère quand même comme roi, mais qui ne règne plus sur grand-chose. Par dérision, Anglais et Bourguignons l'appellent désormais le roi de Bourges.
Le roi de Bourges ?
Il n'a plus un copec et dépend du bon vouloir de prêteurs pour financer la défense de ses derniers territoires. Comme dira Marguerite Latouroulde en 1455, lors du procès qui réhabilitera la mémoire de Jeanne, à ce moment-là, il y avait dans son royaume et dans les parties obéissant au roi telle calamité et telle pénurie d'argent que c'était pitié. Et même tous ceux qui obéissaient au roi étaient presque au désespoir. La cité d'Orléans était assiégée par les Anglais et il n'y avait aucun moyen de lui venir en aide. L'angoisse, c'est à partir de ce siège, au milieu de cette misère qu'apparaît Jeanne, une femme très jeune, au milieu d'un monde d'hommes très vieux, une justicière contre l'oppression, une personne courageuse, au milieu d'un monde de lâches, une enfant de génie, au milieu d'un monde d'adultes, stupides et prétentieux, une visionnaire généreuse, au milieu d'un monde de calculateurs méprisables, une inspirée, autant dire une illuminée. Traitée de putain et de sorcière par les Anglais, d'hérétique par l'Église, alliée à l'université et abandonnée par le roi même du royaume qu'elle a sauvé, jugée schismatique, apostate, menteuse, devineresse, suspecte d'hérésie, errante en la foi, blasphématrice, brûlée puis récupérée ensuite pour la gloriole, béatifiée en 1909, canonisée en 1920 et désormais utilisée depuis un demi-siècle pour servir à un combat complètement étranger au sien. Jeanne, au secours ! Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Mais c'est la plus célèbre, une vraie star. Et c'est la plus bouleversante. Aimable sans condition, sans limite. Comme on peut aimer l'Iliade, Jésus, les cathares ou la poésie de François Villon. Jeanne, c'est la France qu'on peut aimer. La France du mépris des conventions et de la révolte contre l'oppression. La France des visionnaires et des poètes. La France de la justice. Une France qui, comme l'autre et contre l'autre, la France de la force, continuatrice de l'Empire, n'a jamais pris fin. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Je m'appelle Paco Mthielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, je fais l'exégèse de notre histoire sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Celle-ci est subjective et même très subjective, même si j'essaye d'être le plus rigoureux possible. Et pour cet épisode, comme pour le précédent, j'ai reçu l'aide d'un historien, Raphaël Carbone. Que ce qui suit ne soit pas retenu contre lui. Alors, comme dirait l'autre, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. L'Empire n'a jamais pris fin, épisode 7, Jeanne la gauchiste. Jeanne, dite aussi la Pucelle, a.k.a. Jeanne d'Arc, dite encore la Pucelle d'Orléans, est née vers 1412 à Domrémy, un village situé dans l'actuel département des Vosges, en Lorraine. Les principales sources concernant son histoire sont le procès de condamnation de 1431, le procès en nullité de la condamnation de 1455-1456, aussi connu sous le nom de procès de réhabilitation, plusieurs chroniques rédigées de son vivant, comme celle de Perceval de Cagny ou celle d'Enguerrand de Monstrelet, et nous avons un poème de la géniale poétesse Christine de Pisan, le Dicier de Jeanne d'Arc, écrit en 1429, alors que Jeanne vient de faire couronner Charles VII à Reims. Le seul hommage écrit par une femme en langue française du vivant de Jeanne dit à son sujet son préfacier Bertrand Rouzias-Leonardini, à un moment où amis comme ennemis peinent à se remettre du scandale absolu que constitue, hors contexte biblique, son action outre-nature. Pour commencer, on l'appelle très rarement Jeanne d'Arc avant le XVIIIe siècle. Lors de son procès, elle dit à ses juges « Chez moi, on m'appelait Jeannette. Depuis ma venue en France, Jeanne, son nom de famille. » Elle répond qu'elle ne le sait pas. Pourtant, son père s'appelle Jacques d'Arc ou D'Arc. La mère de Jeanne est une certaine Isabelle Romée, qui lui survivra et vivra jusqu'en 1458. Jeanne a trois frères, Jacquemin, Jean et Pierre, et une sœur, Catherine. Dans le cadre de sa vie publique, on l'appelle généralement par son seul prénom, Jeanne, parfois accolée à son surnom, La Pucelle, à partir de 1429. La Pucelle d'Orléans, en revanche, est un surnom posthume. Sa date de naissance est incertaine. Lorsqu'elle rejoint Charles VII en 1429, son âge exact n'est pas connu. Elle est juste considérée comme une adolescente pubère entre 13 et 18 ans, ce qu'on appelle alors couramment une pucelle. De là lui vient ce surnom, la pucelle. Cependant, lors d'un interrogatoire, le 21 février 1431, Jeanne dit avoir, à ce qui lui semble, 19 ans, ce qui nous fait obtenir l'année 1412 par déduction. Jeanne naît à Domrémy, un village situé alors entre le Barrois et la Champagne. Au centre du village coule un ruisseau, le ruisseau des Trois Fontaines. L'essentiel du village est au sud du ruisseau et dépend du Barrois depuis 1300, un fief dont le duc a prêté allégeance au roi de France. La partie nord relève de la châtellenie de Vaucouleurs en Champagne et donc également de l'autorité directe du roi de France depuis 1365 par l'intermédiaire de son capitaine, le sire Robert de Baudricourt. Le cours de ce ruisseau n'a cessé de changer entre le 15e et le 19e siècle, et même si on penche généralement pour le Barrois, on ne sait pas avec certitude de quel côté était la maison du père de Jeanne. Domrémy est un village de sensibilité armagnac. Jeanne a 8 ans en 1420, l'année du traité de Troyes. C'est à Domrémy que Jeanne a pour la première fois entendu parler de la bataille d'Azincourt et de l'incarcération de Charles d'Orléans dans les geôles anglaises. Mais le village de Maxey, où se trouve l'école, à moins de 2 km, a des sympathies bourguignonnes. Les gamins de Domrémy affrontent en bande les gosses de Maxey, reproduisant à leur petit niveau le conflit ayant mené à la guerre civile, les enfants jouent à la guerre. Domrémy fait encore partie de la France qui n'appartient pas à l'occupation anglo-bourguignonne. Mais au regard de la situation générale, le village ne devrait pas tarder à être annexé. Ses parents sont présentés par un de ses parrains, Jean Moreau, comme de bons laboureurs. Jean Moreau dit aussi que ses parents n'étaient pas bien riches. Là encore, c'est un statut très ambigu. Un laboureur, alors, ce n'est pas un pauvre. Il possède des terres, une charrue, des bêtes. On ne sait pas grand-chose de la fortune de sa famille ou de sa pauvreté. Dernier point. Jeanne n'est pas à proprement parler une bergère. Selon son témoignage, comme ceux des autres, elle s'occupe des travaux de la maison, fait du filage, va à la charrue, moissonne et garde parfois les animaux. L'urgence de sa vocation vient du fait que la vie pour elle et pour tous ceux qu'elle connaît est devenue tout simplement un enfer. C'est l'enfer depuis un moment déjà. La France de Charles VI et de la guerre civile vit dans une misère croissante. Mais depuis l'occupation anglaise, elle ne vit pas seulement dans la misère, elle vit aussi dans la terreur. En 1423, les habitants de Domrémy furent contraints d'acheter la protection de Robert de Sarrebruck. Ce dernier s'engagea à ne pas piller le village tant qu'il payerait. La même année, un cousin de Jeanne était tué par des routiers, des soldats pillards, sur la place de Sermaise. Sans surprise, les Français qui profitent alors de l'occupation anglaise sont de la même farine que tous les collaborateurs des occupants de toutes les époques. Des gens cyniques, forts avec les faibles et faibles avec les forts, des profiteurs sans scrupules, des gangsters.
On va vous en débarrasser.
En 1428, des bandes armées descendent dans Domrémy et incendient le village. Jeanne se réfugie avec les autres habitants de son village à Neufchâteau. Ils vont y rester 15 jours. À Neufchâteau, Jeanne va momentanément se fiancer, sans doute à l'initiative de ses parents. Puis elle rompt ses fiançailles. Pourquoi a-t-elle renoncé à se marier ? Parce qu'elle a une mission. Délivrer Orléans et faire sacrer le roi à Reims. Ça ne plaît pas à son père, qui craint peut-être qu'elle ne devienne une fille à soldat. Lors de son procès, Jeanne dira « J'ai entendu dire par ma mère que mon père disait à mes frères « Vraiment, si je savais que cette chose dût arriver que je crains au sujet de ma fille, j'aimerais mieux que vous la noyiez. Et si vous ne le faisiez pas, je la noierais moi-même. » Ambiance. La mission de Jeanne lui est venue de voix. Initialement, celle-ci parle d'une voix.
Ici la voix.
La voix est évoquée dans la lettre du conseiller royal Perceval de Boulainvilliers du 21 juin 1429, puis une lettre d'Alain Chartier d'août de la même année. Il faudra attendre le procès en condamnation pour avoir plus de précisions. Que dira Jeanne exactement ? Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'ai eu une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Et vint cette voix environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Rarement je l'entends sans clarté. Cette voix m'a toujours bien gardée et je l'ai toujours bien comprise. Elle m'a dit qu'il fallait que moi, Jeanne, je m'en aille et que mon père ne sache rien de mon départ. La voix me disait que je lèverais le siège mis devant la cité d'Orléans. Obéissant à la voix et désobéissant à ses parents, Jeanne part à Buret, chez son cousin, Durand-Laxart. Mais c'est pour aller ensuite à Vaucouleurs, et par Vaucouleurs, qui est commandé par le capitaine Robert de Baudricourt, c'est pour atteindre Charles VII, qui réside alors à Chinon. Quand je vins à cette ville de Vaucouleurs, je reconnus Robert de Baudricourt, alors que jamais avant je ne l'avais vu, et par ma voix, je connus ce Robert, car la voix me dit que c'était lui. Elle demande à Robert de Baudricourt une lettre de crédit pour rencontrer Charles VII. Baudricourt la prend pour une illuminée et demande à Durand-Laxart de la ramener chez ses parents. Durand-Laxart en dira un peu plus lors du procès en réhabilitation. Ce Robert de Baudricourt dit à plusieurs reprises que je la ramène à la maison de son père après l'avoir bien giflé.
Une bonne paire de gifles, j'aurais dû le faire moi-même.
Jeanne retourne chez elle, puis elle revient à Vaucouleurs. Quand elle revient, elle loge chez Henri et Catherine Leroyer. Jeanne va y rester 3 semaines. 3 semaines qui lui paraissent longues. Jeanne n'aime pas du tout attendre. On verra sans cesse ce trait de caractère chez elle. L'impatience, le sentiment d'urgence. À l'écuyer Jean de Metz, qui lui demandera quand elle veut partir, elle répondra « Plutôt aujourd'hui que demain, et demain que plus tard. » Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attend, elle fait le pied de grue. Baudricourt continue à ne rien vouloir entendre, mais sa jeunesse, sa fougue et surtout sa détermination commencent à intriguer la population qui la considère un peu comme une guérisseuse. Les rumeurs autour de Jeanne circulent, au point que le duc Charles II de Lorraine, qui est malade, demande à la voir. Elle lui rend visite à Nancy et lui promet de prier pour sa guérison. Quand elle revient, Baudricourt a changé d'avis à son sujet. Il la prend enfin au sérieux. Jeanne le dira. Robert par 2 fois refusa, me repoussa, et la 3e il me reçut, il me donna des hommes. La voix m'avait dit que cela se passerait ainsi. Baudricourt lui confie une escorte de 6 hommes, 2 écuyers, Bertrand de Poulangy et Jean de Metz, donc, 1 messager royal et 3 serviteurs. Ça y est, ils vont partir. Juste avant, Jeanne change de look. Elle s'habille avec des vêtements masculins, chemise, pourpoint noir, chausses et souliers, le tout couvert selon la mode masculine de l'époque, d'une robe courte de couleur sombre. Et elle se fait couper les cheveux par Catherine Leroyer, arborant désormais la coupe en écueil ou en sébile, taillée en rond au-dessus des oreilles, avec la nuque et les tempes rasées. Stylé.
C'est magnifique, ma chérie, pour ton stade.
Jeanne part le 12 février 1429 et arrive à Chinon le 23 février. 11 jours de voyage, où Jeanne et ses compagnons chevauchent essentiellement de nuit pour ne pas se faire repérer par les bourguignons. Il y a de quoi avoir peur. Ils traversent un territoire occupé. Mais sur la route, Jeanne a beaucoup moins peur que les écuyers. Comme dira Bertrand de Poulangy, sur le chemin, nous eûmes bien des anxiétés, mais Jeanne nous disait toujours de ne pas craindre. Une femme seule et jeune. On pourrait aussi avoir les inquiétudes de son père. Jean de Metz et Bertrand de Poulangy raconteront plus tard à Marguerite Latouroulde les sentiments contradictoires qu'ils habitaient.
Elle peut bien s'habiller en homme, elle a tout ce qu'il faut.
Ils disaient qu'au début, ils voulurent la requérir charnellement. Mais au moment où ils voulaient lui en parler, ils en avaient tellement honte qu'ils n'osaient pas lui en parler ni lui en dire un mot. Bertrand de Poulangy dira la même chose. J'étais jeune alors. Et pourtant, je n'avais pas désir ni mouvement charnel de toucher femme et je n'eusse pas osé requérir Jeanne à cause de tant de bonté que je voyais en elle. Jeanne et ses compagnons arrivent à Chinon le 23 février. Quand elle arrive, elle dit « Je durerai 1 an, guère plus ». Le sentiment de la brièveté de sa mission encore. 2 jours plus tard, après réception par celui-ci d'une lettre de Baudricourt, Jeanne est finalement autorisée à voir Charles VII. « La voix, dira Jeanne, m'avait promis que aussitôt que je serais venue vers le roi, lui-même me recevrait. » Toujours cette voix. « Gentil dauphin, dit alors Jeanne à Charles VII, j'ai nom Jeanne la Pucelle et vous mande le roi des cieux par moi que vous soyez sacré et couronné dans la ville de Reims. Mais d'abord, elle veut, doit et va libérer Orléans. » Mais le roi se tâte, il se méfie. Est-ce qu'il a envie ? De plus, il est sous la coupe de ses conseillers, son prêteur ou financier, Georges de la Trémoille, l'archevêque Regnault de Chartres et le capitaine Raoul de Gaucourt, serviteur fidèle des Orléans, qui avait défendu Harfleur contre les Anglais en 1415 et est resté 10 ans en captivité en Angleterre. Alors on envoie Jeanne à Poitiers pour passer des examens. On la confie à 2 femmes, dont l'épouse de Gaucourt, pour qu'elle vérifie que Jeanne est bien vierge. Et même si elle est bien une femme, bon, ça tombe bien, c'est le cas. Et pendant 6 semaines, du 1er mars au 10 avril, la jeune fille est interrogée par une brochette de clercs et docteurs en théologie, à commencer par Regnault de Chartres. Jeanne est exaspérée. Elle n'a pas que ça à faire. Elle répond aux ecclésiastiques avec insolence. Les théologiens lui demandent un signe qui prouve qu'elle parle effectivement au nom de Dieu. « Je ne suis pas venu à Poitiers pour faire des signes, mais conduisez-moi à Orléans, je vous montrerai les signes pour lesquels j'ai été envoyé. »
« Donnez-les-moi ces hommes d'armes, et je vous montrerai les signes par quoi j'ai été envoyé. »
Les théologiens lui demandent pourquoi il serait nécessaire qu'elle aille se battre si Dieu a pitié du peuple de France. Il pourrait bien faire un miracle tout seul comme un grand. « Tu as dit que la voix t'a dit que Dieu veut délivrer le peuple de France des calamités dans lesquelles il est. S'il veut la délivrer, il n'est pas nécessaire d'avoir des gendarmes. »« Ah oui ? Ben c'est simple, dis donc. » Jeanne leur répond « Au nom de Dieu, les gendarmes batailleront et Dieu donnera victoire. » On lui demande quel langage parle sa voix. Elle répond « Meilleur que le vôtre. » On lui demande si elle croit en Dieu. Elle répond
« Oui, mieux que vous. »
Pire qu'une conférence de presse ou une interview, cet exercice. Mais Jeanne y excelle comme Mohamed Ali ou les Beatles. Cependant, elle en a tellement marre. Jean Pasquerel, un confesseur qui va se mettre à sa disposition et la suivra à partir de la bataille d'Orléans, le dira. Elle n'était pas contente de tous ces interrogatoires. Il l'empêchait d'accomplir l'œuvre pour laquelle elle était envoyée et il était besoin et temps d'agir. Puis elle dit 4 choses à cette bande de vieux pépères. D'abord, elle dit que les Anglais seraient défaits et que le siège qui était mis devant la ville d'Orléans serait levé et que la ville d'Orléans serait libérée des Anglais. Elle dit ensuite que le roi serait sacré à Reims. Troisièmement, que la ville de Paris reviendrait dans l'obéissance du roi et que le duc d'Orléans reviendrait d'Angleterre. C'est émouvant que sa 4e prophétie concerne Charles d'Orléans, le poète qui aida François Villon. À son sujet, on pourra lire dans son procès « Je sais bien que Dieu aime le duc d'Orléans. Sur lui, j'ai eu plus de révélations que sur tout homme vivant, le roi excepté. » Nous avons perdu les traces de cet examen. Il a peut-être été détruit, mais Jeanne en parlera dans son procès. Et on a le témoignage du dernier survivant de l'interrogatoire de Poitiers, le frère Seguin. Jean Lambard lui demanda pourquoi elle était venue. Elle répondit de grande façon que quand elle gardait les animaux, une voix s'était manifestée à elle qui lui dit que Dieu avait grande pitié du peuple de France et il fallait qu'elle, Jeanne, vînt en France. En entendant cela, elle avait commencé à pleurer. Alors la voix lui dit qu'elle aille à Vaucouleurs et que là, elle trouverait un capitaine qui la conduirait sûrement en France et auprès du roi. Arrêtons-nous quelques instants sur cette voie à laquelle Jeanne obéit, au point de désobéir à ses parents alors qu'elle n'a que 17 ans, au point de n'avoir peur de rien alors que son escorte de 6 hommes a très peur, au point de parler avec insolence au prêtre, elle qui est si pieuse. Tout le long de l'histoire, nous entendrons parler de personnes dans des situations de crise qui obéissent aux conseils ou aux admonestations de ces voix, des voix qui apparaissent pour ainsi dire dans leur tête et qu'ils sont seuls à entendre, des voix que connaissent non seulement les schizophrènes, mais également beaucoup de gens lors de graves effondrements psychiques liés à l'appréhension de drames personnels ou de catastrophes collectives. Philippe K. Dick, par exemple, connaîtra une expérience similaire à celle de Jeanne. Pendant plusieurs mois, en 1974, une voix lui parlera continuellement dans sa tête. C'était, selon Dick, la voix d'un disciple de Jésus, un gnostique persécuté de l'an 70. Il lui disait que nous vivons depuis 19 siècles dans une prison de fer noir bâtie par l'Empire romain et dont la divinité essayerait tant bien que mal de nous libérer. Je cite Philippe K. Dick. « Nous sommes, semble-t-il, enfermés dans une geôle de métal. mais quelque chose de vital a secrètement pénétré l'enceinte qui nous emprisonne, et cette chose nous transmet conseil et assistance sous forme de signaux audio et vidéo. La voix disparaîtra de la vie de Philip K. Dick à partir de la démission de Richard Nixon, mais il passera le reste de sa vie à tenter de comprendre le sens de son apparition et les ramifications possibles de son enseignement. En particulier dans l'exégèse, ce journal rédigé toutes les nuits jusqu'à sa mort. Dans une lettre à la romancière Ursula Le Guin, datée du 23 septembre 1974, il écrit au sujet de ce disciple de Jésus « Vous n'imaginez pas son animosité envers la tyrannie, que ce soit ici ou en URSS. Il y voyait les cornes jumelles de la même entité maléfique, un seul et unique vaste état-monde dont la nature élémentaire lui apparaissait clairement comme relevant de l'esclavage, une perpétuation de l'Empire romain lui-même. Et c'est de cela qu'il était avant tout l'ennemi farouche. Pour lui, c'était à nouveau César et la lutte qu'il avait menée contre lui. » Cette voix, ces voix, sont peut-être les seuls instruments d'une libération possible dans un monde d'où l'avenir nous semble totalement bouché. C'est pourquoi il n'y a pas grande différence de nature entre les visionnaires, les révolutionnaires, les poètes et ceux qu'on appelle les fous. Seul l'avenir et la vérification collective de leur intuition leur permet de changer de statut, ou plutôt d'en acquérir un qui soit à la mesure de leur nature inspirée. En attendant, ces voix sont toujours un signe, le signe que la résistance à l'Empire n'a jamais pris fin. Revenons en avril 1429. Au bout de 6 semaines longues à pleurer, c'est l'heure de la délibération. Résultat des courses. En elle, on ne trouve point de mal, mais seulement bien, humilité, virginité, dévotion, honnêteté, simplicité. C'est bien. Mais Jeanne n'a pas que ça à faire. Elle est pressée d'aller en découdre. Les Anglais font alors le siège d'Orléans à partir de remparts fortifiés. 9 bastilles qu'ils ont construites autour de la ville par lesquelles ils contrôlent les routes et bloquent l'entrée des vivres. Les Anglais, explique Valérie Toureille dans sa biographie de Jeanne d'Arc, appliquent leur tactique habituelle, jouer la montre, c'est-à-dire la famine. Et pour cela, ils tentent d'empêcher les marchandises de pénétrer dans la ville. On envoie Jeanne à Orléans en avril 1429, mais pas avec une armée. Non, ce serait trop simple. On l'envoie avec un convoi de ravitaillement. Hello, darkness, my old friend. Une partie des vivres va venir par voie fluviale, une autre partie par voie terrestre, avec Jeanne. Jeanne arrive le 29 avril. Elle est accueillie par Jean, le bâtard d'Orléans, un fils que Louis d'Orléans a eu avec Mariette d'Anguin, ainsi que par le capitaine Raoul de Gaucourt. Depuis 2 semaines, le vent souffle de l'est vers la mer et bloque le convoi de vivres qui aurait dû accoster. Dès son arrivée, Jeanne engueule le bâtard, qui lui a fait faire un détour vers le sud, plutôt que de la laisser rentrer par le nord et affronter directement les Anglais dans leur Bastille. Ses hôtes, eux, ne pensent qu'à une chose, la bouffe. Ils ne reçoivent pas les ravitaillements prévus à cause du vent. Et soudain, comme par miracle, le vent change d'orientation, les navires peuvent enfin accoster. Le bâtard est impressionné. Il me semble que Jeanne, et aussi ce qu'elle a fait en guerre et en bataille, était plutôt de Dieu que des hommes. Le changement qui s'est fait dans le vent, après qu'elle eut parlé, donnait l'espoir d'un secours. À peine arrivée, Jeanne reçoit toute la ferveur de la population, qui commence à la traiter comme une star. La Jeanne Mania la fait rire, mais ne l'impressionne pas. Marguerite la Touroult se souviendra. « Plusieurs femmes venaient chez moi quand Jeanne y demeurait et apportaient des chapelets et autres objets de piété pour qu'elle les touchât, ce qui la faisait rire. » Et elle me disait « Touchez-les vous-même, ils seront aussi bons de votre toucher que du mien. » Dès le lendemain de son arrivée, elle veut se battre. Mais le bâtard n'est pas chaud. Les tentatives précédentes ont été des échecs. Il n'a pas assez de soldats. Il va aller chercher des renforts à Blois. C'est le page de Jeanne, Louis de Coutts, qui se souviendra des réactions de cette dernière. Elle était très en colère, car, disait-elle, il avait été décidé que ce jour-là, on n'irait pas à l'assaut. Jeanne est fumasse. Elle se rend au fort des Tourelles, où se trouve le capitaine anglais William Glasdale et ses hommes, et leur lance un ultimatum. « Glasdale et ceux de sa compagnie répondirent vilainement, » dira Louis de Coutts, « l'injuriant et l'appelant vachère, criant très haut qu'il la ferait brûler s'il la pouvait tenir. » Le bâtard met 3 jours à ramener des soldats. « Bon, on y va ?» demande Jeanne. « Pas encore !» Le bâtard estime qu'il n'y a toujours pas assez d'hommes pour attaquer les Anglais. « Il veut la rendre chèvre ou quoi ?» Ok, ça va. Jeanne retourne se reposer. Mais soudain, elle entend que ça commence à se battre dehors. Ce sont des échauffourées entre Français et Anglais. Ni une ni deux, elle attrape son étendard et son épée et s'y rend. En prenant la tête des combats, Jeanne les mène à la prise du fort de Saint-Loup. Grand succès, mais aussi grand massacre d'Anglais. Il y eut là beaucoup d'Anglais tués, dira Jean Pasquerel. Jeanne se lamentait beaucoup, disant qu'ils avaient été tués sans confession, et elle pleurait beaucoup sur eux. Elle disait aussi que dans les 5 jours, le siège devant Orléans serait levé et qu'il ne resterait plus d'Anglais devant la cité. Dès le lendemain, une fois décidé le plan d'attaque, Jeanne envoie une lettre de sommation aux Anglais. Elle préférait largement les voir partir d'eux-mêmes que d'avoir à les tuer. Pour réponse, Glasdale et ses hommes la traitent de « putain des Armagnacs ». Quelle bande d'abrutis. Elle se met à pleurer de rage, tant pis pour eux. Avec des soldats, elle sort de la ville, franchit le fleuve jusqu'à la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc, que les Anglais ont abandonnée, puis part vers celle des Augustins, dont ils s'emparent. Autre grand massacre d'Anglais. Ceux qui survivent partent se réfugier aux Tourelles. Les Tourelles. Jeanne et sa bande les attaquent le lendemain. L'assaut dure toute la journée. Jeanne se prend une flèche des Anglais, elle se retire une demi-heure, puis retourne au combat. Quand ils la voient, les Anglais, qui pensaient s'en être débarrassés, se mettent à flipper. « À l'instant qu'elle fut là, racontera le bâtard, les Anglais frémirent et furent terrifiés. Et les soldats du roi reprirent courage et commencèrent à monter, donnant l'assaut contre le boulevard sans rencontrer la moindre résistance. » Puis Jeanne retourne voir le capitaine Glasdale, qui l'a traité de putain. « Jeanne revint à l'assaut, racontera Pasquerel, criant et disant « Glasdale, Glasdale, rends-toi au roi des cieux. Tu m'as appelé putain. Moi, j'ai grande pitié de ton âme et de celle des tiens. » Alors Glasdale, armé des pieds à la tête, tomba dans le fleuve de Loire et fut noyé. Et Jeanne, émue de pitié, commença à pleurer beaucoup sur l'âme de ce Glasdale et des autres qui étaient là en grand nombre. Le lendemain, dernier jour, Jeanne commence par engueuler ses troupes qui veulent aller casser de l'Anglais sans sommation. Jeanne leur demande d'attendre que les Anglais attaquent les premiers. « Ce sera inutile. Les Anglais lèvent le siège d'eux-mêmes. Ils se cassent sur Mars. »«
Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. »
Incroyable. Elle peut être fière d'elle. Hein. En 2 jours et demi, Jeanne a réussi à lever un siège qui durait depuis 7 mois. Est-ce seulement la surprise de voir cette jeune fille leur tenir tête qui a fait fuir les Anglais? Ou était-elle une excellente guerrière? Les deux, mon général. Comme dira Thibaut d'Armagnac, un capitaine gascon au service de Charles VII, dans la conduite et la disposition des armées et sur le fait de guerre, pour ranger l'armée en bataille et exciter les soldats, elle se conduisait comme si elle avait été le capitaine le plus avisé du monde, qui eut toute sa vie instruit dans la guerre. Côté bourguignon, Enguerrand de Monstrelet lui-même le dit. Nul ne redoutait un chef de guerre comme cette pucelle. Enfin, selon le bâtard d'Orléans, avant elle, 800 ou 1000 de mes soldats ne tenaient pas contre 200 Anglais. Après son arrivée, au contraire, 400 ou 500 des miens eussent eu raison de quasi toute la puissance anglaise. Jeanne n'est pas seulement une excellente chef de guerre. Elle prouve aussi qu'il n'est pas besoin d'être cruel pour se battre. Elle n'éprouve pour les Anglais aucune haine. Elle veut seulement que cesse l'occupation. Comme le dira son page Louis de Coute, elle avait grande pitié de tels massacres. Elle interdit à ses troupes les libertés qu'on prend habituellement à la guerre. Aucune licence pour ses hommes. C'est vraiment l'anti-César. Elle adore plaisanter, tape spontanément sur l'épaule de ses hommes, mais ne supporte ni la présence de filles à soldats qu'elle chasse, ni les gros mots qu'elle remplace systématiquement par l'expression « par mon Martin », le nom de l'époque donné au bâton. « Par mon bâton !» Elle a la classe, quoi. Jeanne interdit également à ses hommes de consommer la viande d'un animal pris aux paysans sans les avoir payés. Elle se refuse avec la plus grande énergie à laisser son armée piller les pauvres, explique l'historienne Colette Beaune. Une juste guerre doit être menée justement et Jeanne se refuse à consommer de la viande qu'elle considère comme volée. Parenthèse. Aucun témoignage ne la décrit mangeant de la viande. Seulement de l'eau, du vin, du pain, éventuellement du poisson. Comme écrit encore Colette Beaune, comme le Christ et sa mère, Jeanne semble totalement végétarienne. Jeanne la wokiste. Puis Jeanne rejoint Charles VII pour lui annoncer la délivrance d'Orléans. C'est bien. Mais pour Jeanne, ce n'est évidemment pas suffisant. Elle veut désormais l'emmener à Reims pour son sacre. Pour ça, il faut traverser la Bourgogne, provoquer son cousin Philippe le Bon, le fils de Jean sans peur, allié aux Anglais, dans ses terres. Charles accepte le risque de reprendre Reims et la provocation de se faire couronner. En juin 1429, juste avant le couronnement, Jeanne et sa bande vont également obtenir une série de victoires extrêmement rapides, connues sous le nom de Campagne de la Loire. Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency et Pathé. Les Français cessent enfin de se faire avoir par les flèches des arbalètes anglaises, vieille habitude, en les prenant de flanc. Il fallait y penser. Elementary, my dear. Et le 17 juillet, on arrive à la deuxième étape de la mission de Jeanne. Charles VII est sacré par Regnault de Chartres à Reims. Pour les Anglais, c'est une humiliation. Le sacre légitime Charles VII qui avait été déshérité par le traité de Troyes. Les Anglais vont tenter d'y répondre 6 mois après la mort de Jeanne en faisant sacrer Henri VI. Mais pas à Reims, désormais inaccessible, à Paris. Un couronnement inutile, car il arrive bien trop tard pour impressionner qui que ce soit et de valeur symbolique nulle, puisque le sacre n'a jamais été considéré comme légitime dès lors qu'il n'était pas accompli à Reims. Sad. Pendant ce temps, la gloire de Jeanne devient internationale. On la prend pour une grande voyante, une magicienne. Les conseillers municipaux de la ville de Toulouse lui demandent son avis sur les changements de la monnaie. La duchesse de Milan, Bonne Visconti, lui écrit pour qu'elle la remette en possession de son duché. Et surtout, les Anglais commencent à se décourager. Ils se mettent à douter de leur réussite. Jusqu'au régent, le duc de Bedford, qui est si dégoûté qu'il attribue à cette sorcière les défaites anglaises. « Toutes choses ont prospéré jusqu'au temps du siège d'Orléans », écrit le duc de Bedford au petit roi Henri VI. « Il arriva, par la main de Dieu, comme il semble, un grand coup. » Causé en grande partie, comme je le pense, par une faute consistant en fausses croyances et craintes non fondées qu'ils eurent d'un disciple et suppôt du démon appelé la Pucelle, qui usait de faux enchantements et sorcellerie. Ainsi que dans une lettre à Charles VII, lui faisant part de son mécontentement. « Tu m'étonnes. Cela ne peut ni ne doit être toléré. Considérant les moyens que vous avez utilisés et que vous utilisez encore pour tromper et abuser l'ignorant, vous êtes surtout aidé et encouragé par la parodie désordonnée et déformée d'une femme, habillé comme un homme dont la vie est dissolue. Ok, boomer. Du côté des bourguignons et des pro-anglais, ça bosse ferme pour répondre à cette nouvelle tendance. L'université de Paris décide de se pencher sur son cas. Et un clerc rédige carrément à l'attention du Vatican un mémoire pour l'accuser d'hérésie. C'est un mémoire qu'on a aujourd'hui perdu, mais dont on a des échos dans certains documents de l'époque, comme cette lettre de Pancrazio Giustiniani, datée de la fin de l'année 1429. J'ai cru comprendre que l'Université de Paris, ou pour mieux dire les ennemis du roi, l'ont fait accuser, je dis cette pucelle, d'hérésie à Rome devant le pape. De même pour ceux qui croient en elle. Ils l'accusent de péché contre la foi parce qu'elle veut être crue et sait annoncer l'avenir. Bon, c'est bien joli tout ça, mais Jeanne a encore du pain sur la planche. À Chinon, elle avait bien dit « Je durerai un an, guère plus. Son temps est compté si elle veut libérer Paris. » Mais là, c'est une autre paire de manches. Avec toute sa bande, Jeanne arrive devant les murs de la capitale. Elle dresse son camp au lieu-dit La Chapelle. Et toujours accompagnée par Raoul de Gaucourt, elle mène une attaque sur la porte Saint-Honoré entre les 7 et 8 septembre 1429. Un bourguignon traite alors Jeanne de paillarde ribaude, toujours le même délire, et tire sur elle avec une arbalète.
Ah, on passe, je vous dis.
La flèche transperce sa jambe. Jeanne est choquée. L'attaque est momentanément suspendue et Jeanne ramenée à La Chapelle. Et là, elle apprend que le roi a décidé de tout arrêter. Oui, Charles VII refuse l'assaut de Paris, ville qu'il dit « soumise à notre cher et bien-aimé cousin Philippe de Bourgogne ».
What ?
Eh oui, le roi est à nouveau sous l'influence de ses fichus conseillers, Georges de la Trémoille et Regnault de Chartres en tête, qui le poussent à l'action diplomatique et à la négociation et au rapprochement avec Philippe le Bon. Donc c'est la trêve entre le roi et le duc de Bourgogne. Galère. Que fait Jeanne ? Elle suit le roi à Sully-sur-Loire, dans un château qui appartient à Georges de la Trémoille, justement. Pas le meilleur des hommes. Pillard et concussionnaire, marié à la riche veuve du duc de Berry qu'il maltraite et ruine, et n'hésitant pas à faire assassiner ses rivaux, ce gangster est alors le prêteur principal de Charles VII. Ce dernier ne peut pas faire grand-chose sans son aide matérielle. Et la Trémoille a un super plan. Comme elle aime se battre, Jeanne va faire des petits boulots pour lui. Pourquoi s'en priver ?
Moi, j'ai du travail pour toi.
Il veut l'envoyer à Saint-Pierre-le-Moutier à la Charité-sur-Loire, deux villes occupées par un traître et bandit nommé Périnée Gressard, un ennemi personnel de la Trémoille. Et que va faire Jeanne, qui n'a pourtant pas que ça à faire ? Elle va accepter. On ne sait pas bien pourquoi. Peut-être par obéissance au roi. Peut-être aussi parce qu'elle pense que ça ne durera pas. D'ailleurs, ça ne va pas marcher des masses, hein, le bon plan de la Trémoille. Jeanne libère Saint-Pierre-le-Moutier, mais échoue à reprendre la Charité-sur-Loire. Perte de temps, fausse bonne idée. Surtout que sans crier gare, fin avril 1430, le duc de Bourgogne assiège Compiègne. Tranquille, le chat. Charles s'est fait avoir par Philippe le Bon. Sa trêve, il peut la remettre dans sa culotte. Vous n'avez qu'à pas écouter ceux qui aiment bien attendre, les diplomates. Jeanne ne l'accepte pas, cette prise de Compiègne. Elle est alors à Sully-sur-Loire, chez la Trémoille, et quand elle apprend que les habitants de Compiègne préféraient mourir que de se retrouver sous le contrôle du duc de Bourgogne, elle n'hésite pas. Elle les rejoint, elle va se battre.
Il y a des soldats qui sont prêts à reprendre le combat. Il faut les soutenir.
Elle part sans avertir le roi. Elle est à Senlis le 24 avril, à Compiègne le 15 mai, et le 23 mai 1430, elle décide de charger avec ses hommes par la grande porte, mais un archer la désarçonne et la fait chuter de son cheval. Elle est alors capturée par des capitaines bourguignons et faite prisonnière par le seigneur Jean de Luxembourg-Ligny. Jean de Luxembourg la conduit devant Philippe le Bon, son grand ennemi depuis toujours, l'allié des Anglais.
Ce n'est pas une chimère, c'est une femme.
Jeanne insiste auprès de lui pour qu'il se désallie de l'Angleterre. Rien à faire. Philippe refuse de reconnaître l'autorité de Charles VII, l'assassin de son père. Et puis quel intérêt ? Philippe le Bon profite largement de l'occupation anglaise. Il y a toujours des gens qui profitent d'une occupation. Puis Jean de Luxembourg emmène sa prisonnière à Beaulieu-les-Fontaines, où elle tente de s'échapper. Comme Jeanne dira à son procès, « Je n'ai jamais été prisonnière en quelque lieu que volontiers je ne m'en échappe. » Elle a bien raison. Jean la conduit ensuite au château de Beaurevoir, où elle fait une seconde tentative d'évasion, à moins que ce soit carrément un suicide, on ne sait pas. Mais elle saute du haut de la tour quand elle apprend qu'elle va être livrée aux Anglais. Et en effet, le 21 novembre 1430, Jean de Luxembourg la vend aux Anglais. Coup de Jeanne, 10 000 livres, pas cher payé. C'est alors qu'entre en scène un homme fort déplaisant, Pierre Cochon. Un salopard bardé de diplômes. Docteur en théologie, licencié en droit canon, recteur de l'Université de Paris à l'âge de 26 ans. Cochon a joué à partir de 1403 un rôle important dans le ralliement des universitaires à Jean sans peur pendant la guerre civile. En 1413, il a collaboré à la rédaction de l'ordonnance dite cabochienne, qui proposait une réforme du gouvernement favorable aux Bourguignons. En 1419, il est de la partie quand l'université travaille à justifier théoriquement l'occupation en élaborant la théorie de la double monarchie, qui place les deux royaumes de France et d'Angleterre sous la seule couronne anglaise.
Je les ai cueillis moi-même, mon adjudant, chef.
Oh, comme c'est gentil, mon petit Fougas.
Pièce sent bon.
Oh,
vous voulez prendre un petit thé, mon adjudant, chef.
Il est l'un des négociateurs du traité de Troyes. Et en remerciement de ses bons et loyaux services, il est nommé évêque de Beauvais le 21 août 1420. Un sacré CV. Mais en 1429, l'évêque Cochon a dû fuir Reims comme un dératé lorsque Jeanne et Charles VII sont arrivés pour leur fichu sacre. Il a donc non seulement une dent personnelle contre Jeanne, mais sa fameuse théorie de la double monarchie, bien abîmée par les victoires récentes, ne pourra retrouver son prestige que s'il démontre que la superstar de la guerre contre les Anglais n'est qu'une misérable hérétique. La capture de Jeanne est connue le 25 mai à Paris. On l'enregistre sur le registre du Parlement. Et c'est dès le 26 mai, le lendemain, que l'Université de Paris envoie une lettre au duc de Bourgogne, au nom de l'inquisiteur de France, pour que Jeanne leur soit immédiatement livrée. Cochon va lui-même négocier la rançon versée par le roi d'Angleterre à Jean de Luxembourg. La prisonnière est amenée à Rouen vers Noël 1430 et l'instruction commence dès le 9 janvier. Une bonne année qui commence pour Cochon. Et du côté du roi ?
Rien, nada, que dalle !
Walou ! Charles VII ne va pas bouger le petit doigt pour Jeanne. On ignore si c'est par sa propre volonté ou s'il suit simplement les recommandations de ses conseillers Regnault de Chartres et Georges de la Trémoille en tête. Une seule mention d'une proposition de transaction de sa part dans le journal d'Antonio Morosini, on peut lire « Charles VII aurait mandé aux Bourguignons qu'il se devait de se prêter à une pareille transaction ou que sinon, il infligerait pareil traitement à ceux de leur parti qu'il avait entre les mains. » Ouais, c'est léger, hein. Il n'a pas dû beaucoup insister. Comme écrit Charles Péguy, écrivain français neuroatypique de génie, auteur de deux Jeannes, celle de 1897, dédiée à toutes celles et à tous ceux qui seront morts de leur mort humaine pour l'établissement de la République socialiste universelle, et le mystère de la charité de Jeanne d'Arc en 1910. Elle était venue vers un roi chevalier et elle trouvait un roi commerçant. Elle était venue vers un roi de justice et elle trouva un roi misérablement calculateur. Elle était venue vers un roi de guerre et elle trouva un roi de tremblement. Elle était venue vers un roi de grâce et elle trouva un pauvre négociateur. Le procès va durer 5 mois, du 9 janvier au 30 mai 1431. Drôle de procès. Première irrégularité, Jeanne n'a pas d'avocat. Toute personne âgée de moins de 25 ans devait être défendue par un avocat. Ou alors la sentence prononcée contre elle pouvait être frappée de nullité. mais Cochon s'en fiche bien. Il a les mains libres et il le sait. Pour lui faire face, à ses côtés, il nous a dégoté une centaine de vieux mecs. Des chanoines, des docteurs, des abbés et autres délégués de l'Université de Paris. 100 vieux dégueulasses contre une jeune femme seule. Voilà à quoi ressemble le procès de Cochon. 100 clowns sinistres. Et puis le cardinal de Winchester, l'évêque de Norwich, le comte de Warwick. Vu que ce sont les Anglais qui payent, ils ne vont pas se gêner pour assister au spectacle. Il ne manque que les pop-corns. Deuxième irrégularité et de taille. Jeanne est gardée dans une prison laïque, surveillée par des geôliers anglais, en contradiction avec les règlements des tribunaux d'inquisition. Elle aurait dû être détenue dans la prison de l'archevêché et gardée par des femmes. Cochon sait très bien ce qu'il fait. L'huissier Jean Massieu le dénoncera lors du procès en réhabilitation. Pierre Cochon commanda que ladite Jeanne fût gardée en prison séculière et entre les mains de ses ennemis mortels. Et quoiqu'il eût bien pu la faire détenir et garder en prison ecclésiastique, toutefois il a permis depuis le commencement du procès jusqu'à la consommation de la tourmenter et traiter très cruellement aux prisons séculières.
Nous, évêques, interdisons à Jeanne de sortir des prisons qui lui ont été assignées dans ce château de Rouen.
Je n'accepte pas cette défense.
Vous avez déjà tenté ailleurs et par plusieurs fois de vous échapper.
Comme tout prisonnier en a le droit.
Death to the witch! Death to the witch!
Pour commencer, Jeanne doit subir un examen de virginité. Yep, one more time! Mais comme elle est bien vierge, Cochon retire le constat en virginité du dossier d'instruction. Comme tout ce qui ne va pas dans son sens. Pas très fair-play. Puis l'évêque mène également une enquête de personnalité à Don Rémy, qu'il ne conserve pas. Une enquête qui a sans doute été trop peu à charge pour servir ses desseins et qu'il a donc balancé à la poubelle. Sacré Cochon.
Et vous avez pas remarqué, la production cherche à faire gagner l'autre équipe depuis le début, comme par hasard.
Les interrogatoires se veulent déstabilisants. Des questions lancées sans ordre apparent, passant du coq à l'âne. Mais elle va être bien peu déstabilisée, Jeanne. Elle va tenir sa ligne. Toutes les séances commencent par une exhortation à prêter serment. Et à chaque fois, presque comme un sketch, Jeanne commence par rechigner à prêter serment.
Qui vous a pris votre croyance ?
J'ai appris de ma mère le paternoster, l'Ave Maria et le Credo.
Dites un paternoster ?
Confessez-moi, je le dirai en confession.
Je ne sais pas sur quoi vous voulez m'interroger, dit-elle dès le premier jour. Il y a peut-être des questions auxquelles je ne vous répondrai pas. Le lendemain, ça recommence. Il faut prêter serment, Jeanne. Je l'ai fait hier. Cela doit vous suffire, vous me chargez trop. Et le jour suivant. Allons, Jeanne, jurez purement et simplement. Passez outre. J'ai déjà juré par deux fois. Passez outre. C'est son mot. Passez à autre chose, quoi. Régulièrement, quand on lui pose des questions sur lesquelles elle n'a pas envie de répondre, elle dit
« Passez outre. »
Épargnez-moi. Ou « Vous n'aurez rien de plus aujourd'hui. » Ce n'est pas juste pour le plaisir de se payer leur tête. C'est surtout qu'elle craint de mécontenter sa voix. La voix vient de la part de Dieu. Je ne vous dirai pas tout ce que je sais. Je crains plus de lui déplaire en parlant que de vous répondre. Alors les prêtres lui demandent de s'expliquer sur cette voix. Et Jeanne, malgré tout, s'explique. C'est la voix qui lui a demandé de quitter la maison de son père. La voix qui l'a menée à Baudricourt et par Baudricourt au roi. La voix qui lui a demandé de libérer Orléans et de faire sacrer le roi à Reims. On lui demande si, selon cette voix, Dieu détesterait les Anglais. De l'amour ou de la haine que Dieu a pour les Anglais, je n'en sais rien, dit Jeanne. Mais je suis convaincue qu'ils seront chassés de France, excepté ceux qui y mourront. Pour elle, de toute façon, les Anglais perdront avant 7 ans. Avant qu'ils soient 7 ans, dit Jeanne. Les Anglais abandonneront plus grand gage qu'ils ne firent devant Orléans et ils perdront tout en France. Comment savez-vous cela, lui demande-t-on. Je le sais bien par révélation qui m'a été faite et que cela arrivera avant 7 ans. L'historienne Régine Pernoud note, au sujet de ses paroles de mars 1431, que la libération de Paris, signe de la défaite de l'Angleterre, allait se produire 5 ans plus tard, en avril 1436. « J'ai dit qu'avant la fête de Saint-Martin d'hiver, on verrait beaucoup de choses, » dit encore Jeanne. « Il se pourrait bien qu'il y ait les Anglais qui soient jetés à terre. » Et en effet, c'est Compiègne qui déjà sera reprise le 25 octobre de cette année. C'est pendant ce procès, à partir du 4e jour d'audience, que les voix acquièrent une identité à mesure que les juges insistent. Jeanne parlera à leur sujet de Saint-Michel, de Saint-Marguerite d'Antioche et de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Pourquoi eux ?
Passez outre, je ne vous le dirai pas.
Chef de la milice des Anjubiens, on représente généralement Saint-Michel en lutte contre le dragon. Et Marguerite d'Antioche est aussi une guerrière à sa manière. Décidée à rester vierge, elle est supposée avoir repoussé les avances de l'empereur Olybrius, avoir été avalée par un dragon et s'en être sortie en le transperçant de son épée. Quant à Catherine d'Alexandrie, également décidé à rester vierge. Elle aurait résisté à l'empereur Maximin II, qui exigeait qu'elle se marie et abjure sa foi. L'empereur l'aurait alors confrontée à 50 philosophes païens pour qu'ils la confondent, mais Catherine leur aurait tenu tête, ils auraient admis leur échec. L'absence de base historique au récit de ces deux saintes a entraîné leur disparition progressive au sein des célébrations de l'Église catholique. Catherine est retirée du calendrier en 1970. Le culte de Marguerite est également retiré à partir de Vatican II. Il est possible que les voix se soient présentées ainsi à elle et que Jeanne leur ait voué un culte depuis son enfance. Saint Michel, par exemple, c'est le patron du Barrois. L'église de Don Rémy possédait une statue de Marguerite d'Antioche. Et sa sœur, décédée prématurément, elle s'appelait Catherine. Il est également possible que Jeanne, dont la lecture des minutes du procès démontre la profonde intelligence, ait décidé de les convoquer pour s'expliquer auprès de ses assesseurs, car ces trois figures chrétiennes forment une excellente base de référence pour évaluer autrement sa situation à elle. Regardez bien, Marguerite et Catherine, ce sont deux saintes proto-féministes, ne se laissant pas faire par les hommes. Comme elle, Jeanne est vierge. Comme l'archange Michel et comme Marguerite, elle a combattu un dragon, l'Angleterre. Et comme Catherine, elle doit désormais affronter un aéropage de vieux cons. Enfin, Saint Michel, protecteur de Charles V, symbole depuis la fin du XIVe siècle d'une France résistante, peut être opposé à Saint Georges, un autre pourfendeur de dragons, mais qu'on associe lui à l'Angleterre dont il est le saint patron depuis l'an 800. Malheureusement, ces bonnes références ne perturbent pas la bande à cochons dans leur procès. Vers la fin des interrogatoires complémentaires, ils décident sciemment de l'embrouiller avec la distinction théologique des notions d'église militante et d'église triomphante.
Méfiez-vous de me juger mal, j'aurais fait mon devoir de vous le dire.
Je cite les minutes du procès. Alors il lui fut dit qu'il y a l'église triomphante, où sont Dieu, les saints et les âmes sauvées. L'église militante, c'est notre Saint-Père le Pape, vicaire de Dieu en terre, les cardinaux, les prélats de l'église et le clergé et tous les bons chrétiens et catholiques. Cette église bien assemblée ne peut errer et est gouvernée par le Saint-Esprit. Oh bah ils sont gonflés. Ça fait que 13 ans qu'on a mis fin au grand schisme d'Occident avec ces deux ou trois papes. Les théologiens vont même reprocher la pucelle, le fait qu'au plus fort de la Jeanne Mania, elle ait reçu une lettre du comte d'Armagnac qui lui demandait à quel pape il fallait se vouer. « Je répondis que je n'en savais rien », leur dit tout simplement Jeanne. « Bah oui, cette histoire de pape et d'église, c'est pas son problème. Dieu lui suffit. « Je m'en rapporte à l'église militante », répond Jeanne pour leur faire plaisir, pourvu qu'elle ne me commande pas chose impossible à faire. « Si l'église militante vous dit que vos révélations sont illusions ou choses diaboliques, vous en rapporterez-vous à l'église ?» lui demande-t-on. « De cela, je m'en rapporterai toujours à Dieu, dont j'ai toujours fait le commandement », répond Jeanne. De plus en plus à court d'arguments, Cochon et ses amis en reviennent à ses habits d'homme. Ça tombe bien, le tribunal peut se prévaloir d'une citation du Deutéronome. « Une femme ne pourra porter de costume masculin et un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Quiconque agit ainsi est en abomination à Dieu. » « L'habit, c'est peu, » leur répond Jeanne. « C'est la moindre des choses. Je n'ai pris cet habit et je n'ai rien fait si ce n'est par le commandement de Dieu et des anges. » Jeanne est toujours sur une ligne très sûre et très déterminée. « Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ?» lui demande-t-on. « Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Et si j'y suis, Dieu m'y garde. » Girl boss.
Vous écrivez ce qui est contre moi. Vous n'écrivez pas ce qui est pour moi.
Délibération le 12 avril. Une lettre est rédigée. Mais on n'est plus à Poitiers, chez les vieux papis inoffensifs. On est chez les ordures. On accuse Jeanne de se fier à de fausses révélations, d'errer dans la foi en prétendant que les articles de foi ne sont pas plus assurés que ses propres révélations à elle, enfin d'être coupable d'idolâtrie, de schisme, d'hérésie, de blasphème et de jactance.
Repends-toi ! Abjure tes fautes !
Et le jeudi 24 mai, dans le cimetière de Saint-Ouen, un échafaud et des tribunes sont dressés. On installe trois estrades, l'une pour le cardinal de Winchester et ses invités, le deuxième pour les membres du tribunal civil, la troisième pour Jeanne. Un spectacle, on vous dit. Le prêche est de Guillaume Erard, un universitaire, ami de Cochon et dévoué à l'Angleterre. Isambard de la Pierre se souvient qu'Erard disait qu'en France, il n'y avait jamais eu tel monstre comme l'était Jeanne, qui était magicienne, hérétique, schismatique, et que le roi qui lui était favorable était semblable à elle, qu'il avait voulu récupérer son royaume grâce à une telle femme hérétique. Et là, face au bûcher dressé, face aux flammes, Jeanne, pour la première fois, prend peur. Elle accepte d'abjurer. Elle accepte de renoncer à ses voix et à ses habits d'homme. On la condamne alors à la prison perpétuelle.
nous te condamnons finalement et définitivement, afin que tu fasses pénitence salutaire, à la prison perpétuelle.
Et on l'installe dans une prison où elle va à nouveau être gardée par des geôliers anglais. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Seulement 4 jours plus tard, le lundi 28 mai, on la retrouve avec des vêtements d'homme. « Pourquoi avez-vous pris ces habits d'homme et qui vous les a fait prendre ?» lui demanda leur cochon. « Je les ai pris de ma volonté, » répond Jeanne. « Je les ai pris parce que c'était plus licite et convenable d'avoir habits d'homme, puisque je suis avec des hommes, que d'avoir habits de femme. » Une question doit malgré tout être posée. A-t-on essayé de la violer ? Cette possibilité n'est évidemment pas consignée dans les minutes du procès de cochon. Mais c'est ce que dira le frère Martin Ladvenu, son confesseur, lors du procès de réhabilitation. La simple pucelle lui révéla qu'après son abjuration et renonciation, on l'avait tourmenté violemment à la prison, molesté, battu et déchoué, et qu'un milord d'anglais l'avait forcé. Elle disait publiquement que cela a été la cause pourquoi elle avait repris habit d'homme. En outre, alors qu'elle a ce procès de rechute, elle va également en profiter pour revenir sur ses voies et regretter devant cochon de les avoir précédemment abjurés. « Si je disais que Dieu ne m'avait pas envoyé, je me damnerais. C'est vrai que Dieu m'a envoyé. Mes voix m'ont dit depuis que j'avais fait grande injure en confessant que je n'avais pas bien fait en ce que j'avais fait. Tout ce que j'ai dit et révoqué ce jeudi, je l'ai fait seulement à cause de la peur du feu. » Cochon peut être content. Jeanne est retombée en hérésie. Elle est relapse, donc. La sentence définitive est prononcée par l'évêque, qui signe alors son chef-d'œuvre. Nous déclarons que toi, Jeanne, vulgairement appelée la pucelle, est tombée en diverses erreurs et divers crimes de schisme, idolâtrie, invocation des démons et nombreux autres. Et ensuite, après abjuration de tes erreurs, il est évident que tu es revenu à ces mêmes erreurs et à ces crimes, ton cœur ayant été séduit par l'auteur de schisme et d'hérésie. C'est pourquoi nous te déclarons relapse et hérétique.
Tout est dit.
Et le 30 mai 1431, Jeanne est conduite 7 fois pour de bon au bûcher. Place du Vieux Marché, à Rouen. On réinstalle 2 estrades, une pour la justice ecclésiastique et une pour la justice laïque. Elle meurt brûlée, donc, la peine la plus grave. On l'a réservée aux sodomites, aux sorcières et aux hérétiques, car elle efface toute trace corporelle et avec elle, l'espoir de participer à la résurrection des corps. Après quoi, le cardinal ordonne 3 crémations successives et fait jeter ses cendres dans la Seine afin de s'assurer qu'il ne reste absolument rien de son corps. On n'est jamais trop prudent. Un morceau d'os ressuscitable et Jeanne pourrait leur refaire la guerre dans l'au-delà. Dès que Jeanne a brûlé, les Anglais se remettent à la guerre et assiègent immédiatement Louviers. Selon Jean Riquier, on disait communément que les Anglais n'osaient pas mettre le siège devant Louviers jusqu'à ce que Jeanne soit morte. Et Thomas Bazin, dans son Histoire de Charles VII, écrit en 1471, disait que les Anglais ne reprirent force et courage qu'après sa mort, tellement elle est terrifiée. Les Anglais étaient en effet unanimes à penser et à dire qu'ils ne pourraient avoir de succès dans leur lutte contre les Français aussi longtemps que vivrait la pucelle qu'ils accusaient de sorcellerie et de maléfice. Eh ben, elles vont pourtant pas leur porter chance aux Anglais, leurs 3 crémations. Moins de 2 ans après la mort de Jeanne, à partir de juin 1433, à partir surtout du moment où ce ralentisseur professionnel de Georges de la Trémoille cesse d'avoir de l'influence sur lui, l'action de Charles VII se fait enfin plus cohérente et plus soutenue. Yep. La paix avec les Bourguignons est même signée le 20 septembre 1435, mais là, pour le bénéfice de la couronne. Et les villes, qui n'en peuvent plus d'attendre l'arrivée des troupes, se soulèvent d'elles-mêmes et chassent l'occupant, comme en Basse-Normandie. Le 13 avril 1436, le connétable Arthur de Richemont, profitant de l'insurrection parisienne, fait son entrée par la porte Saint-Jacques, tandis que les plus compromis, parmi lesquels l'évêque Pierre Cochon, bien sûr, fuient la ville la queue entre les jambes. Pontoise est reprise en 1441, mettant fin à la présence anglaise en région parisienne. Des trêves sont signées avec l'Angleterre entre 1444 et 1449, et on s'attaque à la Normandie à partir de mai 1449. C'est le 10 novembre que Charles VII fait son entrée à Rouen, reconquise après 30 ans d'occupation. Et 3 mois plus tard, il charge maître Guillaume Bouillet d'ouvrir une information sur le procès de 1431. Ça va pas se faire en 5 minutes, on s'en doute. En 1454, le dominicain Jean Bréal fait un voyage à Rome pour parler au pape Nicolas V du procès touchant Jeanne. Et il faut attendre un nouveau pape, Calixte III, pour qu'on ordonne, sur la demande officielle de la mère de Jeanne, Isabelle Romée, qui est encore vivante, la révision du procès. Ce procès en réhabilitation casse le premier jugement. Prononcé le 7 juillet 1456, le jugement déclare le premier procès et son conclusion nul, non avenu, sans valeur ni effet. Ok, Dommage que non seulement la principale intéressée soit déjà morte, bien sûr, mais également les juges du premier procès, Pierre Cochon en tête. Il reste cependant beaucoup de témoins pour raconter l'histoire. Et l'histoire de Jeanne, devrais-je dire la légende, commence à s'écrire. Jeanne était une star, elle va devenir un mythe. Mais pas trop vite, pas tout de suite. En fait, on a tendance à minimiser l'action de Jeanne jusqu'au 19e siècle. Tout s'est passé comme si le procès en nullité n'avait pas eu d'éclat, écrit Claude Gauvard. Pas de raz-de-marée pour honorer Jeanne. Aller plus loin, en commémorant Jeanne, aurait peut-être assombri la propre victoire du roi. D'ailleurs, le silence de Charles VII à l'égard du souvenir de Jeanne dit assez comment il l'a jugée. Une prophétesse utile, qu'il avait assurée de l'appui de Dieu, mais qui avait fait son temps. Christine de Pizan est une des rares contemporaines à en faire un éloge inconditionnel. Elle a raison de rappeler à Charles VII qu'il lui doit tout. On pensait que c'était la chose impossible que ton pays, qui se perdait, te fût rendu. Or, c'est visiblement le tien, car quelque nuisible qu'on t'ait été, tu l'as repris grâce à la pucelle sensible qui, Dieu merci, te l'a conquis. François Villon la cite également dans la balade des dames du temps jadis. Dites-moi où, en quel pays, est Flora la belle romaine, Alcibiade et Thaïs qui fut sa cousine germaine, et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, où, vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan ? Deux poètes, donc. Les élites intellectuelles, elles, la tiendront longtemps en grand mépris. Elles favoriseront une hypothèse assez abjecte, qu'on voit surtout dans les écrits pro-bourguignon, et qui fait de Jeanne ni une envoyée de Dieu, ni une sorcière ou une hérétique, mais une manipulée, une paysanne naïve, utilisée par les partisans de Charles VII pour galvaniser les troupes et impressionner l'ennemi. En 1459, l'évêque d'Arras, le très bourguignon et très politique cardinal Jean Jouffroy, prononcera une harangue devant le pape Pie II, harangue qui fait de Jeanne un simple stimulant, afin qu'elle ranima les âmes affaiblies et brisées des Français, eux qui, précisément, au témoignage de César, prennent facilement comme avérée une chose simplement entendue. Oui, le cardinal pense ici à la guerre des Gaules, où César décrit les Gaulois avec son espèce de mépris. Il leur arrive souvent de prendre sur les affaires les plus importantes des décisions dont il leur faut incontinent se repentir, car ils accueillent en aveugle des bruits mal fondés. Le mépris des gens du peuple n'a jamais pris fin.
Vous voyez, honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Cette thèse bourguignonne fera florès chez les philosophes des Lumières et trouvera une sorte d'apothéose dans le texte que Voltaire mettra 32 ans à écrire, de 1730 à 1762, pour se foutre de sa gueule, La Pucelle d'Orléans. Un texte bien cringe, comme diraient les jeunes. Et ça ne lui suffira visiblement pas, puisqu'il en remettra une couche dans L'Essai sur les mœurs de 1756, où il va jusqu'à traiter Jeanne de malheureuse idiote. Oui, une débilos, pas seulement manipulée, mais carrément castée par Baudricourt afin d'impressionner les Anglais. Il fallut bientôt recourir à un expédient plus étrange, à un miracle. Un gentilhomme des frontières de Lorraine, nommé Baudricourt, crut trouver dans une jeune servante d'un cabaret de Vaucouleurs un personnage propre à jouer le rôle de guerrière et d'inspirée. Ouais, une fake news qu'on pourrait dire non seulement machiste et classiste, mais carrément complotiste.
Comme par hasard.
Oui, comme par hasard. Oui.
Celle-ci ne tient pas la route 5 minutes, quand on sait que Robert de Baudricourt a refusé par 2 fois de la recevoir et a même conseillé durant l'axar de la gifler pour qu'elle arrête de les saouler. Ce qu'il ne faut pas inventer quand même, hein, pour défendre à la fois les hommes, la hiérarchie sociale et le rationalisme. Jeanne commence à être vraiment réhabilitée au 19e siècle, et ce avant tout par l'intermédiaire de Jules Michelet. Aucun autre écrivain historien, écrit Gerd Krumeich dans Jeanne d'Arc à travers l'histoire, n'a joué un rôle aussi déterminant dans la popularisation et le développement de l'image de Jeanne au XIXe siècle et jusqu'à nos jours que Michelet. Jeanne est pour Michelet un symbole. C'est l'incarnation du peuple qui prend son destin en main et devient sujet d'histoire. Tout son charme est l'humanité. Il n'a pas d'aile, ce pauvre ange. Il est peuple, il est faible, il est nous, il est tout le monde. Mais plus encore, Jeanne est pour Michelet une poétesse de l'action. Si poésie veut dire création, écrit-il, c'est là sans doute la poésie suprême. Et bien sûr, c'est son ancien élève et ami, Jules Quichera, directeur de l'École des Chartes, qui fournira l'apport principal aux études futures sur Jeanne, rendant accessible la totalité des documents et découvrant alors une source essentielle, la chronique de Perceval de Cagny. Celle-ci insistant sur la lutte continuelle entre Jeanne et les conseillers du roi, Quichera peut en conclure que Jeanne n'a pas eu seulement à se battre contre les Anglais, mais qu'elle a dû résister à l'absurde et odieux gouvernement en faveur duquel elle vint accomplir ses miracles. Et au XXe siècle, Jeanne va devenir une héroïne de cinéma. le sujet de plusieurs chefs-d'œuvre. La passion de Jeanne d'Arc de Karl Dreyer, tout d'abord, en 1927, avec la génialissime René Falconetti en Jeanne d'Arc et Antonin Artaud, le plus grand poète du XXe siècle, dans le rôle de l'huissier Jean Massieu, qui prend fait et cause pour elle. Puis le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, en 1962, avec Florence Delay, tendue comme un arc, rythmé par la froide précision des questions et réponses, lancées comme des fléchettes. Enfin, Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette, en 1494, avec Sandrine Bonner. Inspirée, drôle, vivante, Jeanne la Pucelle, c'est une femme jeune, tout d'une pièce, qui sait qu'elle n'a pas beaucoup de temps devant elle, qui doit sans cesse batailler contre des adultes mous, traîtres, veuls, qui préféraient toujours qu'on s'y mette après-demain. Une adolescente androgyne géniale, une sorte de Rimbaud. Et après tout, Rimbaud lui-même s'était bien identifié à Jeanne, même ironiquement, une Jeanne païenne. Il l'écrit dans Une saison en enfer. « Je me voyais devant une foule exaspérée, en face du peloton d'exécution, pleurant du malheur qu'il n'ait pu comprendre et pardonnant, comme Jeanne d'Arc. Prêtre, professeur, maître, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci, je n'ai jamais été chrétien, je suis de la race qui chantait dans le supplice. Je ne comprends pas les lois, je n'ai pas le sens moral, je suis une brute. » Écrit à partir des témoignages publiés par Régine Pernoud dans Jeanne d'Arc par elle-même et par ses témoins. Le film de Jacques Rivette fait de Jeanne une grande sœur de toutes ses héroïnes, une grande sœur de Céline et Julie et de la bande des quatre. De ce film, Régine Pernoud elle-même dira que sa grandeur tient au fait qu'on y entre dans le temps de Jeanne. Et puis, dans un genre beaucoup plus fantaisiste, plus fou, comment ignorer les bandes dessinées de Fmur, Jeanne au pied du mur et Tim Galère, et le court-métrage de Bertrand Mandico, Y a-t-il une vierge encore vivante, avec Elina Lovenson. On peut également voir Jeanne comme l'avant-garde des héroïnes badass des séries télévisées américaines contemporaines, ses filles dures et drôles, de Véronica Mars à Samine Chaud dans Person of Interest. Jeanne est la première tueuse de démons, la première slayer, la grande sœur de Buffy.
I'm Joan of Arc. I figured we had a lot in common, seeing as how I was almost burned at the stake, and plus she had that close relationship with God.
And you are? Of course.
Pour faire cet épisode sur Jeanne d'Arc, j'ai lu beaucoup de livres. Alors, les principaux, c'est les travaux des quatre grandes biographes. Les quatre grandes biographes, c'est Régine Pernoud, Colette Beaume, Claude Gavard et la dernière, je me rappelle jamais de son nom. Merde. Pour faire cet épisode sur Jeanne, j'ai lu pas mal de livres. Alors, ce qui est très intéressant par rapport à la question des voix, Jeanne, elle entend des voix. C'est tellement notoire, du reste, que c'est presque devenu une expression. On peut dire à quelqu'un « t'entends des voix, t'es comme Jeanne d'Arc ». Ces voix, c'est un phénomène relativement courant. C'est pas quelque chose d'exceptionnel d'entendre des voix. C'est quelque chose, évidemment, qu'entendent des personnes qui sont considérées comme fous, comme schizophrènes. Mais aussi, c'est des choses que les gens entendent dans le cours de leur vie quand ils ont des crises. C'est pas rare. C'est pas rare que des personnes vous disent que quand ils sont très en sécurité avec vous et quand ils se sentent à l'aise pour parler, qu'à des moments de crise personnelle ou de crise qui touchait la collectivité, ils ont été par moments sujets à les auditions de voix. Évidemment, je donne l'exemple de Philippe K. Dick, mais c'est très très fréquent aussi chez les écrivains ou les poètes, quelles que soient les modalités dans lesquelles ils en parlent. William Blake, par exemple, il entendait des voix, où il racontait qu'il voyait des figures bibliques se balader dans le jardin, etc. Il disait ça même quand il était enfant à sa mère, ça l'énervait, etc. Et pourtant, William Blake, c'est un hérétique, hein, c'est pas un béni oui-oui, loin de là. Il en avait un usage propre, mais il avait vraiment eu ce phénomène-là. Et il y a un psychologue très intéressant dans les années 70, très curieux, dont je conseille la lecture, même si c'est une lecture étrange. C'est un Américain qui s'appelle Julian Janis. Julian Janis, il a sorti dans les années 70, professeur de psychologie en fac américaine, sorti un livre qui s'appelle « La naissance de la conscience lors de l'effondrement de l'esprit ». Et son hypothèse, qui est une hypothèse tout à fait étonnante, je dis pas que c'est vrai, hein, mais ça m'a beaucoup intéressé, c'est que les statues de Dieu sont des activateurs. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, en fait, vraiment dans des vieux textes. Parce que si on regarde les textes attribués à Hermès Trismégiste, qui sont des textes du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, il y en a un fameux qui s'appelle le Discours parfait, dans lequel on parle des statues et des statues qui parlent. du phénomène de faire parler les statues. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi très souvent. Les gens se mettaient devant les statues et les statues leur parlaient. En fait, les statues étaient comme un activateur de voix intérieure qui leur disait. On voit du reste que Jeanne, c'est pas quelque chose dont je parle, mais Jeanne, elle aime bien aller dans les églises. C'est normal parce qu'elle est pieuse, on dira. Elle aime bien, elle s'arrête devant une statue, etc. Mais peut-être aussi que c'est un activateur de voix. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, quand on va dans une église et qu'on va devant une statue, on est dans un état particulier. On est dans un état un peu second, on a une conscience modifiée. Il est possible qu'à ce moment-là, ça active une fonction de l'esprit un peu différente qui te permet d'obtenir, on va dire, des recommandations et qui te permet d'obtenir ces prises de décision importantes lorsque tu es dans des périodes de stress. Parce que Jeanne, c'est quelqu'un qui résiste très bien au stress. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que normalement, c'est impossible, 17 ans, 18 ans, tu traverses un territoire occupé pendant plusieurs semaines, toute ton équipe, ils pètent de trouille, ils se chient dessus, et toi, tu dis non, il n'y a pas de problème, on y va, mes voix me le disent. Bon. Oui, on va dire c'est une illuminée. Disons qu'elle a activé une fonction en elle qui lui permet à ce moment-là de ne pas avoir peur. Mais qui est sans doute quelque chose aussi qu'on active dans des périodes de très grand stress et qui est fort nécessaire. Pourquoi est-ce que la gauche a abandonné Jeanne? Tout cela vont se poser des questions par rapport à la figure de Jeanne d'Arc. Parce que c'est une figure évidemment très rapidement très sympathique. Malgré vraiment l'OPA réalisé par l'extrême droite sur Jeanne d'Arc, quoi. Le côté, on la prend et maintenant vous t'y touchez plus, c'est à nous, c'est notre jouet, c'est notre objet, notre machin, quitte à en faire n'importe quoi, quitte à la faire servir des combats qui sont complètement étrangères aux siens et qui sont même antithétiques aux siens, mais vraiment une honte totale. Mais il lui arrivait un peu la même chose que Jésus avec l'Église, moi je dirais, hein. C'est très proche, hein. Dans le cas de Jésus, on a une figure qui, pour moi, est une figure émancipatrice, qui va être réinterprétée comme figure contraignante, comme nouvelle figure de jugement, alors que c'est une figure qui supposait abolir le jugement, elle va resservir un nouveau système de jugement. Dans le cas de Jeanne, c'est une figure qui est là pour personnifier quasiment la lutte d'indépendance d'un peuple par rapport à ce qu'il faut bien appeler à l'époque des colons, qui va être utilisé par des nationalistes qui sont tous sauf des anticolonialistes, qui sont véritablement des impérialistes, des fans de César, quoi.
Jeanne, au secours!
Donc oui, et tout le monde ou presque le sait. Avant d'être l'otage de l'extrême droite française, Jeanne a d'abord été une héroïne républicaine, incarnation du patriotisme de gauche et de l'anticléricalisme. Et c'est cohérent, puisque c'est une fille de laboureur qui sort de sa condition paysanne. Une fille qui n'a pas appris à écrire, qui n'est peut-être même pas allée à l'école, et qui est suffisamment intelligente pour tenir tête à une centaine de curetons bardés de diplômes. Une fille du peuple qui prend la tête de l'armée de libération d'un pays face à une oppression insupportable malgré l'insigne lâcheté du roi et la trahison du clergé. C'est en réaction à sa popularité croissante qu'une reprise en main par l'Église, une récupération très intéressée et très politique, va avoir lieu. Tout d'abord menée par le père Dupanloup, prêtre, journaliste et activiste engagé dans une lutte sans relâche contre la déchristianisation qui va demander sa canonisation dès 1855, un processus lent qui n'aboutira qu'en 1920. Cette réhabilitation par l'Église militante, qui la remet bien tranquillement dans sa poche, va se doubler d'une utilisation de plus en plus systématique par une extrême droite plus nationaliste et raciste que chrétienne, certes, mais tout à fait favorable à une religion d'État. Une extrême droite qui s'invente alors entre les 19e et le 20e siècle et qui va avoir le culot de faire de Jeanne une figure de proue de leur combat. Un combat non contre un ennemi extérieur, un colon oppresseur, mais un ennemi intérieur, les Juifs. Il fallait y penser.
Est-ce que, lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou un autre ?
Pas du tout.
À
aucun moment, ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre.
Ça commence avec l'Union nationale de l'abbé Garnier, qui organise un rassemblement Place des Pyramides en 1894, suivi par l'Action française et les Cablots du Roi, qui s'en rendront à leur tour. Enfin, de 1988 à 2023, par le ou les partis de Le Pen et sa marmaille, qui la feront servir leur combat contre les Arabes pauvres. C'est culotté.
Et quelques instants après sa fille, il rend à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon.
Jeanne n'appartient à personne, bien sûr. Comme Jésus. Comme Rimbaud. Mais tout de même, a-t-on vu plus indécente contrefaçon que cette Jeanne, réinventée de toutes pièces, pour servir les intérêts des descendants de ceux qui la brûlèrent. Cette Jeanne, qui fut père et mère et se fait chef de guerre à 18 ans, la voici prendie par des partisans de l'autorité parentale, les bandeurs de la famille. Cette Jeanne, rebelle à l'autorité, qu'on a quasiment brûlée pour avoir porté des vêtements d'homme, la voici convoquée par les nostalgiques de la France à papa. Cette Jeanne, dont on se demandait si elle était un homme, la voici adorée par des homophobes et des transphobes.
J'ai voulu écrire les mémoires imaginaires de Jeanne d'Arc, donc à la première personne.
Cette Jeanne, qui n'écoute que ses voix et se contrefout de l'Église militante, la voici revendiquée par les suppôts de la religion d'État. Enfin, cette Jeanne résistante, qui se lève contre l'occupation, la voici idolâtrée par un courant politique dont la sensibilité comme la pratique ont été de tout temps collaborationnistes. Historiquement, chez ses fondateurs, l'Action française et ses petits frères, Robert Brasillach en tête, qui ouvriront grand les bras à l'occupant nazi. Ontologiquement, dans une adoration de la force, bien supérieure à celle de leur tradition. On se souvient que Jacques Bainville, leur historien, avait écrit « À qui devons-nous notre civilisation? À quoi devons-nous d'être ce que nous sommes? À la conquête des Romains! C'eût été un malheur si Vercingétorix avait triomphé. » Et actuellement, dans ses décisions politiques, qui associe la soumission économique aux intérêts de la grande bourgeoisie capitaliste et la désignation de bouc émissaire parmi les membres les plus précaires de la population. Cette Jeanne, qui n'a pas dit un mot sur les juifs ou les musulmans, qui ne hait même pas les Anglais, mais veut tout simplement et tout naturellement que cesse une occupation injuste et criminelle, la voici monopolisée par les boutiquiers xénophobes les plus grossiers, faibles avec les forts et forts avec les faibles, exactement semblables aux personnes contre lesquelles elle a dû combattre toute sa vie et qui ont fini par la brûler. Car soyons clairs, si l'on veut absolument trouver une remarque islamophobe dans les minutes du procès de Jeanne d'Arc, on la trouvera. Mais ce ne sera pas dans la bouche de Jeanne. On la trouvera dans les propos de son assassin, l'évêque Cochon, qui lui dit « Si vous ne voulez pas vous soumettre à l'Église et lui obéir, on vous abandonnera comme une sarrasine. » Jeanne, l'islamo-gauchiste. En vrai, le héros de Philippe de Villiers et d'Éric Zemmour, c'est pas Jeanne, c'est l'évêque Cochon. C'est lui que les skinheads devraient célébrer place des pyramides. C'est à lui qu'ils devraient réserver leurs prières et leurs fleurs.
Et si vous ne l'avez pas fait, remerciez-le comme de la plus grande grâce qu'il vous ait faite. Après celle d'être chrétienne.
Cochon, au secours ! Il y a dans l'histoire peu de choses parfaitement pures, écrit Simone Veil dans L'Enracinement. La plupart concernent des êtres dont le nom a disparu, comme les habitants de Béziers au début du XIIIe siècle. Simone Veil pense à ceux que nous avons appelés cathares. Si l'on cherche des noms qui évoquent de la pureté, on en trouverait peu. Dans l'histoire de France, trouverait-on un autre nom que Jeanne d'Arc ? Ce n'est pas sûr. Et pourtant, Simone Veil, nous sommes en 1943, écrit aussi « La popularité de Jeanne d'Arc au cours du dernier quart de siècle n'était pas quelque chose d'entièrement sain. » En effet, que dirait-elle aujourd'hui ?
Macron ! Putain ! Explosion !
Régine Pernoud, la grande biographe de Jeanne d'Arc, avait eu un choc en s'entretenant avec des journalistes coréens. Ils lui parlèrent de leur héroïne nationale, Yoo Gwan-sun, une fille de 16 ans, qui s'était opposée à l'occupation japonaise en 1919. Et dont l'héroïne d'enfance avait été Jeanne d'Arc. Elle-même sera renommée la Jeanne d'Arc coréenne. Je cite Régine Pernon. « Nous nous obstinons à voir en Jeanne une héroïne nationaliste, tricolore, celle qui a chassé l'anglais. Il faut être coréen, ou russe, ou américain, ou tchèque, ou irlandais, pour la voir telle qu'elle était. L'image de toutes les libérations, des jeunesses intrépides prêtes au sacrifice pour délivrer leur peuple de l'oppression étrangère. » D'après tout, parfaitement significatif que Jeanne n'ait été ni comprise, ni même vraiment connue pendant toute l'ère colonialiste et esclavagiste, celle qui commence au XVIe siècle et ne s'achève qu'en notre temps. Et pour l'historien qui bénéficie du recul des siècles, c'est un spectacle saisissant que celui de cette petite jeune fille, s'élevant de toutes ses forces, au prix même de sa vie, contre l'oppression d'un peuple par un autre. Cela au seuil d'une époque qui va précisément faire de l'oppression d'un peuple par un autre un système de gouvernement, l'objectif de toutes les politiques des nations européennes, voire même, par un étrange détournement, une entreprise patriotique. On se rassurait, il est vrai, en ce qui concerne du moins la France, par l'évocation des grandeurs de l'Empire romain. Rien à dire. Bravo, Régine Pernoud. On peut aussi parler de Qiu Qin, qu'on a appelée la Jeanne d'Arc chinoise. poétesse et révolutionnaire. Née en novembre 1875 à Xiamen, mariée en 1896, elle quitte mari et enfant pour faire des études au Japon, puis s'habille avec des vêtements d'homme, apprend à manier le sabre, dirige une revue proto-féministe et tente en vain de renverser la dynastie des Qing avant d'être condamnée à mort et décapitée en 1907. Et Maria Pita, surnommée la Jeanne d'Arc de la Galice, née en 1565, luttant contre l'occupation anglaise, tuant d'un lancer de pique le frère de l'amiral Francis Drake et entraînant la démoralisation de l'ensemble de la troupe qui décide alors de battre en retraite. On peut également parler de Kimpavita, qu'on a pu qualifier de mère de la révolution africaine et de Jeanne d'Arc congolaise, une immense figure de l'anticolonialisme née entre 1684 et 1686. Alors qu'elle est sur le point de mourir, elle a une apparition de Saint-Antoine qui lui donne une mission, lutter contre l'occupant portugais, restaurer l'unité du royaume Congo. Kimpavita crée alors sa propre église. Elle rejette la croix, instrument de la mort de Jésus, exactement comme les 100 rois, ainsi que le baptême, la confession, la prière, le mariage. Elle accuse les missionnaires blancs d'avoir dénaturé le message divin pour tromper la population noire. Ceux-ci lui font un procès en hérésie avec l'aide du pouvoir portugais. On la condamne au bûcher et on la brûle à Divulu, dans l'actuel Angola, le 2 juillet 1706. Alors je ne parlerai pas de la Caïna parce qu'elle précède Jeanne. Oui, ce n'est pas la Caïna qui est la Jeanne d'Arc kabyle, c'est plutôt Jeanne qui est la Caïna française. Mangez vos morts, les fachos.
J'ai été extrêmement frappé et choqué, je dois le dire.
C'est un écrivain et révolutionnaire péruvien, José Carlos Mariátegui, pionnier de l'indigénisme, qui écrira en 1926 « Jeanne d'Arc est revenue vers nous, portée par la houle de notre propre tempête ». Et Jeanne n'est pas seulement une héroïne anticolonialiste et indigéniste, c'est aussi une héroïne féministe. Les suffragettes, par exemple, imprimaient l'image de Jeanne sur leur costume. « Voyez comme une femme surpasse les héros de Rome », écrivait déjà Christine de Pizan. Honneur au sexe féminin, Dieu l'aime, c'est un fait acquis. Et ce n'est franchement pas tordre beaucoup l'histoire que de voir dans le procès de Jeanne un épisode peu glorieux du patriarcat le plus crasse, écrasant à 100 contre une jeune femme un peu trop libre, un peu trop déterminée et surtout un peu trop intelligente et douée. Tous ces vieux couillidés, pour reprendre l'expression de Chloé Delhomme, ne sont pas tellement différents dans leur argumentaire concernant les vêtements qu'ils seraient légitimes de porter ou l'orgueil de cette jeune fille, des messieurs inquiets de l'avenir de leur virilité de notre époque. Tous ces vieux imbéciles qui prétendent aujourd'hui adorer Jeanne tout en s'acharnant contre tout ce qui pourrait, de près ou de loin, remettre en cause leur vieux privilège de mâle blanc. Jeanne n'est pas seulement une héroïne féministe, c'est également une héroïne pour les lesbiennes, comme pour la poétesse Vita Sackville-West, la maîtresse de Virginia Woolf, ou pour la dramaturge Caroline Cage, qui a écrit « Jeanne était anorexique. C'est une jeune fugueuse, victime d'un père incestueux et alcoolique. Elle aimait les femmes, elle est morte parce qu'elle portait des vêtements d'homme, elle était insolente, irrévérencieuse, plus intelligente que ses juges. » Et c'est enfin une héroïne pour les transgenres. Depuis le livre de Leslie Feinberg, Transgender Warriors, en 1997. Il faut penser à l'écriteau déposé au pied de la statue de Jeanne d'Arc à Lille en 2010, cité dans le livre de Clovis Maillet, Les genres fluides. Trans, butch, asexuel, PD, Gwyn, va savoir, je ne suis pas la pucelle catho-fasciste pour qui on me fait passer. Jeanne n'est pas une gauchiste, d'accord, c'est une provocation. Mais c'est un modèle pour tous ceux qu'on traite dédaigneusement de gauchistes, même à gauche. Pour tous les gauchistes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi elle doit être reprise à la droite, qui la tient dans ses geôles, comme les anglo-bourguignons, et à la gauche rationaliste, qui la prend de haut et préfère faire les stratèges, comme Georges Latrémoille ou Regnault de Chartres. Bien entendu, la gauche rationaliste ne sait que faire d'une illuminée qui ne combat que par et pour ses voix. Mais la gauche rationaliste est toujours démunie lorsque les circonstances donnent tort à ses exigences d'émancipation. Elle attend toujours une conjecture plus favorable. Elle ne sait quoi faire quand le vent souffle du mauvais côté. Nous aurons toujours besoin de personnes qui, à tort ou à raison, pensent, comme Jeanne, qu'elles peuvent influencer le sens du vent. Il n'y a aucune action politique qui puisse s'évaluer à partir de ces résultats directs. Tout ce qui est produit par nos actes n'a de résultat qu'indirect. On ne peut pas penser une action à partir de ses résultats parce qu'il n'y a aucun moyen d'évaluer les résultats d'une action dans le temps. Nous ne devons pas nous focaliser sur les répercussions apparentes de nos actions dans le cours des événements. Face aux échecs possibles, cela ne peut nous procurer que de l'amertume, comme après toute révolution ratée. Et face aux victoires apparentes, cela ne peut nous procurer que de l'orgueil. Et donc de l'hybris. Notre action transformera nécessairement le monde, que nous soyons en mesure de le constater ou non. Mais ces résultats se situe toujours après notre mort, puisque notre combat se confond avec notre vie. Il n'y a aucune action qui puisse s'évaluer à partir de ces résultats politiques extérieurs. Mais on peut évaluer les conséquences intérieures de ces actes, la façon dont ils transforment notre perception du monde. on peut évaluer la qualité d'être qu'un acte nous a apporté. Pour cela, il faut agir sans regard pour le fruit de l'action. Et c'est dans la Bhagavad Gita, texte sacré de l'Inde, apparu entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, qu'on pourra trouver la source la plus pure de ce rapport à l'action. Nous sommes au milieu d'une guerre qu'on dirait civile, entre deux branches cousines d'une famille, un peu comme les Armagnacs et les Bourguignons. Ici, ce sont les Pandava et les Kaurava. Le prince Arjuna doit donner le signal du début des combats, mais dégoûté à l'idée de devoir tuer ses cousins, est en proie au doute, à la tristesse, à l'impuissance. Déguisé sous les aspects de son cocher, Krishna apparaît et le convainc de passer à l'action. Krishna incarne alors la voix divine, comme celle de Jeanne ou de Philip Ken. Krishna explique alors à Arjuna l'importance de se focaliser sur une activité qui permette son détachement. Toutes les souffrances de la conscience sont liées à l'agitation de l'esprit, née du doute, du désir, des incertitudes, des hésitations. Arjuna doit se battre, mais sans se demander jamais à quoi son combat aboutira. Seuls doivent compter les raisons pour lesquelles il se bat, les principes qu'il défend et la façon dont il les défend, les moyens qu'il met en œuvre, sa conduite. « Il t'appartient d'agir sans jamais un regard pour les fruits de l'action », lui dit Krishna. « Ne fais jamais du fruit de l'action ton mobile. Ceux pour qui les fruits de l'action sont leur mobile méritent la pitié. Nous devons agir, mais sans jamais un regard pour les fruits de notre action. Ainsi, les répercussions seront nécessairement bonnes. Elles seront bonnes, mais nous ne les verrons pas comme bonnes. Et elles seront bonnes aussi et peut-être surtout parce que nous ne les verrons pas comme bonnes. Parce que nous accepterons qu'elles suivent un mouvement secret hors de notre regard. À partir de cette compréhension spirituelle du sens de l'action matérielle, il ne peut pas y avoir de sentiment d'impuissance politique. Jeanne n'est pas une gauchiste, d'accord, c'est une provocation. Mais Jeanne est un modèle pour tous ceux qui ressentent au plus profond d'eux-mêmes la nécessité d'agir en poète de l'action, malgré le mépris qu'on leur porte, comme à tout rêveur, tout illuminé, et en en acceptant les conséquences. En cela, la pucelle qui fit couronner le dauphin et voulut libérer Paris peut être une héroïne pour les 100 rois. Aujourd'hui, Jeanne ne doit évidemment pas libérer le peuple de France des étrangers. Cela n'a jamais, 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 jamais été son combat. C'est même l'inverse. C'est une anticolonialiste, pas une raciste. Et une femme libre, pas une bénie oui-oui. Jeanne doit nous aider à nous libérer de ceux qui nous rendent concrètement la vie abominable. Tous ces dirigeants indécents d'arrogance, de nullité, de mépris. Et leurs sponsors et maîtres, les latrémoïdes de notre temps, ces concussionnaires milliardaires qui nous saignent et nous mènent à la mort. Et qui sont même prêts, si c'est dans leurs intérêts, à nous brader aux fascistes les plus crasseux.
Je compte sur vous.
Si Jeanne peut apparaître comme un modèle, c'est pour tous ceux qui se battent non pas contre plus faibles, mais contre plus forts qu'eux, contre plus grands qu'eux. Pour tous ceux qui se battent pour ces combats qu'on dit perdus. Jeanne est l'héroïne et la patronne de tous ceux qui souffrent du sentiment d'impuissance politique. Elle est là pour leur rappeler qu'un combat, s'il est juste, n'est jamais perdu. Jamais. Aujourd'hui, Jeanne peut être revendiquée par tous les peuples dans leur combat contre l'oppression coloniale et par toutes les personnes, trans, butch, asexuelles, pédé, gwyn, qui veulent simplement vivre comme elles l'entendent. Elle peut aussi être revendiquée haut et fort par tous ceux que la société méprise et dont elle ne sait que faire. Les autistes, les neuroatypiques, les schizos, les inadaptés, les freaks, ceux qui entendent des voix et ceux qui voient des fantômes. Tous ceux qui ne sont pas conformes à une image stupidement conformiste de l'homme. Jeanne est avec eux. Elle est avec les marginaux, avec les freaks. Jeanne n'est pas seulement avec eux. Elle est l'une d'entre eux. Jeanne est une freak. Elle n'a pas vu les fruits de son action. Elle est morte avant d'avoir obtenu sa victoire, mais elle a eu sa victoire. C'est ça ce que nous enseigne l'histoire de Jeanne. C'est ça être une poétesse de l'action. Les poètes de l'action batailleront et le dieu des freaks et des 100 rois donnera victoire. Bien. Merci d'avoir vu cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, activez la cloche. Merci à Améliès, Baptiste et Mathias pour leur aide et travail sur cette émission et à toutes celles et ceux qui ont suivi cette série tout le long de l'année. C'est le dernier épisode de la saison. Si vous voulez voir la suite de L'Empire n'a jamais pris fin à la rentrée, abonnez-vous à Blast. Et les autres, si vous n'aimez pas ma vision de Jeanne d'Arc, passez outre. Finito!
Finito?
Tournage finito! Bye bye l'Empire!